sûr.
L'heure philo. L'heure philo sur France Inter jusqu'à 21h. Fanny Cohen-Moreau à la réalisation, Chantal Lemontagné à la préparation, Djoubaka a choisi les disques et Dienab Sangaré est à la console. Le philosophe, la Terre et le virus, un livre signé Patrice Maniguillet, exercice d'admiration tout autant que d'explication, et dans une heure, eh bien nous l'espérons fermement, vous vous sentirez plus terrestre. Bruno Latour, qui nourrit de sa pensée celle de notre invité, nous ouvre la voie.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Moi, je suis un enfant du XXe siècle. Je suis né au milieu du siècle. La modernisation, c'était quand même l'horizon dans lequel on allait. J'ai passé beaucoup d'années en Amérique. Arrivé en Amérique, c'était le land of opportunity. C'était une espèce d'extraordinaire espace dans lequel tous, au fond, même probablement les plus jeunes, les plus vieux d'ici, pas les plus jeunes, se sont engagés. Et puis, brusquement, on vous dit, ah ben non, finalement, la planète qui correspondait à cet espace, elle n'existe pas. Il n'y a pas de planète correspondant à ce rêve, disons, d'américaniser la totalité du monde. Et donc, on accuse toujours les gens de douter des élites, mais il faut quand même se poser la question de savoir ce qui leur est arrivé. Ce qui leur est arrivé, c'est qu'on est encore dans l'idée qu'on va passer, qu'il va y avoir une reprise, qu'on va continuer comme avant, qu'on va continuer ce modèle d'expansion, alors qu'il va falloir rentrer à l'intérieur d'une Terre qui est plus petite que ce rêve de développement. Donc, ceci dit, je ne suis pas du tout contre les élites. On a des élites qu'on mérite. C'est à nous de faire le boulot, ce n'est pas à eux.
Il va falloir entrer dans une Terre plus petite. Bonsoir Patrice Maniguillet.
Bonsoir.
C'était donc Bruno Latour, hein, vous l'aurez deviné les uns et les autres. Alors vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre et votre livre tout entier est imprégné de la pensée de Bruno Latour, lequel apporte la preuve qu'il est un visionnaire. Vous apportez la preuve que Latour est un visionnaire, que malheureusement il a raison. La Terre à laquelle nous étions si habitués finalement au point de ne plus y faire attention, eh bien la Terre se rappelle à nous et nous sonne les cloches vertement. Alors on va voir exactement pourquoi, mais vous dites que nous sommes dans un moment latourien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que si on veut comprendre le présent, ben, c'est utile de lire Latour, et que d'une certaine manière, Latour avait écrit des choses dont on perçoit la pertinence maintenant. Ça fait quand même une quarantaine d'années qu'il écrit des livres, et il n'avait pas été préoccupé par cette question écologique, et en particulier par la question du réchauffement climatique, tout de suite. C'est seulement dans les années 80, des années 90, que cette question est venue vraiment au cœur de ses préoccupations.
C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé sa réflexion par le réchauffement climatique?
Non, il a commencé sa réflexion plutôt par la question des sciences, mais d'une manière générale, par quand même la question de la modernisation. Mmh. Et en particulier, d'ailleurs, en Afrique, où il était coopérant, comme beaucoup de jeunes Français à l'époque, il s'était intéressé à la manière dont les grandes entreprises cherchaient à introduire dans le contexte postcolonial des méthodes modernes. Et d'une manière générale, la colonisation, c'est aussi la question de la modernisation avec l'idée du progrès qu'on allait étendre à l'ensemble des populations, souvent par la violence, il faut bien le dire quand même, et pas simplement par la douce promesse d'une vie meilleure. Mais ce qu'il dit dans l'extrait que vous avez passé, c'est qu'on sait maintenant que l'extension de ce mode de vie, par exemple de celui des habitants des États-Unis, eh bien, se heurte sur une limite planétaire, puisqu'on évalue à 5,7 planètes ce qu'il faudrait pour que tous les êtres humains vivent comme les habitants des États-Unis d'Amérique. Donc nous n'avons pas cette Terre, c'est ça le point. Alors ça varie, en France je crois que c'est 2,8, bon évidemment, je crois Madagascar a le record du mode de vie le plus sobre, et toute la question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire
aussi
améliorer la vie, que veut dire améliorer nos vies, alors qu'une certaine idée du progrès n'est plus envisageable.
Et l'arrivée du Covid et tout ce que ça a entraîné a donné raison à Bruno Latour?
Alors, il est frappant qu'une dizaine d'années d'ici, en fait, les questions écologiques n'étaient pas centrales dans les préoccupations des gens. Et elles le sont devenues, d'une part, parce que l'urgence devient extrême. Comme on sait, le GIEC a dit que d'ici 3 ans, si nous n'avons pas pris des mesures drastiques, nous ne pourrons pas. Puis même, il y a une estimation qui dit que il nous reste 11 ans avant que la probabilité que nous puissions rester en dessous des 1,5 degrés devienne inférieure à la probabilité que nous rations cet objectif. Donc bon, disons, c'est urgent. Il y a ça, mais il y a aussi effectivement la pandémie qui a, je crois, constitué une sorte d'effraction des problèmes écologiques dans l'intimité des gens. Mmh. Ils se sont rendus compte que ces questions n'étaient pas lointaines, ni dans le temps, ni dans l'espace, mais extrêmement immédiates, en fait. Et donc, l'urgence était sensible.
Donc, on va peut-être enfin, grâce à lui, grâce à vous, écouter, entendre Bruno Latour. Pourquoi est-ce qu'il est, il a autant, enfin, aussi peu de voix, je dirais, en France, alors qu'il en a énormément à l'étranger? C'est un philosophe connu, reconnu.
C'est une bonne question, et c'est vrai que je crois que la France a vécu sur la nostalgie d'une période brillante de son histoire intellectuelle, qui est celle des années 40 avec l'existentialisme, puis ensuite 60-70 avec Michel Foucault, Jacques Derrida, etc. Mmh. Et on l'avait probablement une sorte de deuil, d'une certaine manière. Et il faut voir aussi que, comme le disait Bruno Latour dans l'extrait que vous avez passé, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière effectivement aux États-Unis et qui ne vient pas des grandes écoles françaises, qui a une trajectoire assez originale, qui par ailleurs vient d'un fond catholique qui lui a donné probablement sur la modernité un regard assez décalé par rapport à la grande pensée française du XXe siècle. Bon, et puis probablement que nul n'est prophète en son pays, mais on sentait...
C'est souvent en France, c'est comme ça, nul n'est prophète en France.
Oui, on sentait un scepticisme à l'égard de l'idée même qu'il puisse y avoir une grande pensée maintenant dans notre pays. Et je crois que, pour ma part, je suis pas tombé dans la marmite de Bruno Latour quand j'étais petit. J'y suis arrivé il y a une quinzaine d'années.
Et entre le moment où vous y êtes arrivé et le moment où vous êtes devenu vraiment latourien, il s'est passé combien de temps? Parce que vous dites qu'on est, le moment est latourien, mais on est latourien ou on n'est pas latourien?
Alors justement, je pense que la question n'est pas d'être latourien ou pas soi-même au sens d'adhérer à une doctrine. L'intérêt de lire les textes de Bruno Latour, c'est justement que ce sont des textes qui éclairent la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il nous permet de comprendre le problème dans lequel on se trouve.
Et de ne pas répéter peut-être des façons de penser qui sont obsolètes. C'est comme s'il fallait changer de logiciel en quelque sorte.
Qui sont pires qu'obsolètes, qui sont la source même du problème. C'est-à-dire la manière dont on construit le problème fait que ce problème se répète, on le voit sur la question du réchauffement climatique, y compris l'idée qu'on va trouver une solution. L'idée qu'on va trouver une solution technique, par exemple, au réchauffement climatique, risque d'aggraver les problèmes climatiques. Si vous mettez un énorme thermostat mondial, comme certains projets qu'on appelle de géo-ingénierie le prévoient, on néglige la possibilité d'un accident industriel, c'est comme avec les centrales, et un accident à cette échelle-là, et d'une gravité qui ferait que peut-être même l'espèce humaine ne s'en remettrait pas, en tout cas notre civilisation telle qu'elle est, ne s'en remettrait pas, ça c'est sûr. Et des milliards de gens ne s'en remettraient pas. Donc quand on envisage le problème sur le mode de sa résolution technique, on prend des risques très graves. Et donc il y a lieu de reprendre les questions à la base, et de non pas, justement c'est ça l'intérêt de l'œuvre de Bruno Latour, non pas de renoncer au projet, disons, de modernisation, à l'idée d'amélioration de la vie, mais de le penser autrement, en se rendant compte que la manière dont on l'a présenté, eh bien, ne fonctionne pas.
Mais est-ce qu'on se rend compte, Patrice Maniglier, de ce que signifie cette phrase « Nous sommes terriens avant même d'être humains » ?
Oui.
Est-ce qu'on en prend
toute la
mesure ?
Non. Effectivement, non, parce que... la Terre est un objet très nouveau, en fait. Donc on a l'impression que la Terre est très vieille, qu'elle a 5 milliards d'années, etc. Mais la Terre, ça n'est pas simplement la planète de Copernic qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. C'est pas non plus le sol sur lequel on se trouve. La Terre, c'est un ensemble de cycles biogéochimiques, comme par exemple le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, les cycles atmosphériques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, le niveau d'oxygène dans la planète n'est pas une donnée de la Terre qui aurait été constatable il y a 5 milliards d'années. La Terre a été climatisée par les vivants. Ce sont des bactéries qui, il y a près de 2,5 milliards d'années d'existence de la Terre, se sont développées et ont produit de l'oxygène comme une pollution au départ, qui a permis à d'autres vivants de profiter de cet oxygène pour vivre, et puis d'ailleurs d'augmenter la quantité d'oxygène. Bref, les vivants participent à des régulations terrestres, et en fait ce qu'on peut appeler la Terre...
Il y a des dérégulations.
Voilà, ce qu'on peut appeler la Terre et ce qu'on appelle Gaïa, c'est, vous voyez, c'est un être historique qui vie, c'est peut-être faudrait mettre ça entre guillemets, mais en tout cas qui a une histoire. Mm-hmm. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, peut-être même de toutes les créatures terrestres, bah pour la première fois, en tout cas dans un laps de temps si court, bah nous sommes en train de terraformer la Terre. Vous voyez, il y a des projets pour terraformer Mars en créant une atmosphère favorable à la vie sur Mars. Elon Musk, par exemple, a ses projets fous. Mais en fait, on le fait tous les jours. C'est-à-dire que quand vous prenez votre voiture ou quand vous chauffez, vous aujourd'hui, vous contribuez à la modification des équilibres planétaires. Ce qui n'était pas du tout le cas dans des systèmes sociotechniques antérieurs qui n'avaient pas l'échelle qui permettait de faire ce genre de choses. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, on rencontre la Terre comme quelque chose qui réagit à nos actions. Ça, c'est un point important parce que, vous voyez, on a l'impression que la Terre, c'est juste un contexte, un espace, un gros caillou sur lequel on se trouve. Ben, pas du tout. C'est un agent, c'est un acteur, c'est quelque chose qui réagit à nos actions et qui fait que nous réagissons à la manière dont elle réagit à nos actions, comme le virus.
Ça, ce que vous dites là me fait penser à Théodore Monod, qui disait que quand on touche une fleur, quand on cueille une fleur, c'est à une étoile qu'on fait mal.
Alors bah, ça c'est très beau, mais c'est vrai que souvent, quand on posait les questions écologiques avant, on posait les choses en termes d'environnement plutôt local. Par exemple la pollution, si vous polluez des plages, vous n'avez pas le sentiment que la plage se révolte. Tandis que là, c'est non seulement la plage se révolte, mais en plus, c'est au niveau global. C'est l'intégralité du système planétaire qui se modifie en réaction à nos actions. Ça c'est nouveau.
Patrice Maniglier, vous êtes donc notre invité ce soir jusqu'à 21h, le philosophe, la Terre et le virus, Bruno Latour expliqué par l'actualité, et c'est publié aux éditions des Liens qui libèrent. La reina de la canción latina, c'est la Lupe, elle dit fever en roulant le R.
I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fever. That is something you all know. Mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó.
Martin.
À partir du moment où on dit qu'il y a des problèmes d'environnement, on est sûr qu'on se trompe. La question du pouvoir d'achat, elle est au centre. C'est une question essentielle pour des millions de Français. Ce n'est pas détaché de la question écologique, c'est au centre de la question écologique. Comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, comment on se déplace, comment on vit, comment on s'habille, comment on éduque ses enfants, comment on les soigne. si ce n'est pas des sujets qui sont au centre de la question de la bonne vie dans un monde habitable, je ne vois pas ce qui est extérieur à la question de l'environnement. Pour le moment, l'idéologie générale, c'est quand même que la question économique est centrale et que cette question économique est définie de façon très étroite comme une certaine façon de définir tous les liens que nous avons entre nous. Et du coup, l'environnement devient quelque chose qui est extérieur. Et ceux qui s'intéressent à l'environnement apparaissent comme des bobos diplômés. On ne peut pas travailler ces questions écologiques sans avoir d'abord essayé d'avancer sur cette affaire. C'est la lutte idéologique absolument classique.
C'était Bruno Latour, évidemment. L'idéologie, elle nous met droit dans le mur. Patrice Maniglier.
L'idéologie, on en a besoin. D'une certaine manière, la philosophie, c'est une contre-idéologie. Donc ça me paraît pas... Un problème, justement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il suffit de dire la vérité, par exemple, sur le réchauffement climatique ou sur la question écologique, et de croire que tout le monde va changer. Ça se passe pas comme ça.
Mais de toute façon, Bruno Latour, il pense pas non plus qu'il y a une vérité, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit philosophique. C'est un peu...
Absolument.
Est un peu à un carrefour à chaque fois.
Un des intérêts de le lire, comme c'est vrai que le livre s'appelle Bruno Latour, expliqué par l'actualité, parce que c'est intéressant de voir un penseur qui n'est pas là pour expliquer l'actualité, mais qui se trouve être expliqué par l'actualité. Ça change quand même beaucoup. Et donc, effectivement, il est quelqu'un qui nous permet de comprendre, dans ce son que vous avez passé, on voit bien qu'il insiste sur le fait que les questions sociales et les questions écologiques ne peuvent pas être séparées. Alors, quand je dis expliqué par l'actualité, je ne pensais pas qu'aujourd'hui même, il y aurait une actualité qui, effectivement, montrerait la pertinence de ce travail, puisque on est le jour où la NUPES a été créée, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.
Coalition donc, de partis de gauche.
Donc, il s'agit d'unir les questions écologiques et les questions sociales. Donc les questions d'inégalité sociale, on l'a vu avec les Gilets jaunes, sont des questions qui sont immédiatement des questions écologiques parce que, par exemple, si vous regardez les essais nucléaires ont été faits en Algérie en Océanie, en France, sur des populations colonisées. Si vous regardez qui est le plus exposé à la pollution, ce sont les populations les plus pauvres. Donc en fait, ce que dit Latour ici, c'est si on veut améliorer tout simplement nos vies, et ça, c'est le projet social. C'est mieux vivre, et vivre aussi plus également et plus équitablement, eh bien, ça doit se présenter comme des problèmes écologiques. Il y a aussi ce problème de la justice climatique.
Et de la justice climatique. Et ne pas tout ramener aux humains, parce qu'il y a les humains et il y a les non-humains, dont il faut évidemment prendre en considération. C'est-à-dire qu'ils sont autant actants que nous.
Absolument, les non-humains. Et surtout, on dépend d'eux. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est pas simplement quelque chose qui est joli quand on se promène dans la forêt. La biodiversité, c'est une condition de possibilité de la vie. Et on voit bien, aujourd'hui encore d'ailleurs, en fait, un rapport est sorti prouvant que c'était bien les pesticides qui étaient responsables de la destruction des insectes.
Un rapport qui a donc été fourni par l'INRAE et l'IFREMER. Hein.
Absolument, à la demande en fait, du Parlement. Oui. Et donc s'il n'y a pas des insectes pollinisateurs, il y a une décrue très sérieuse de la fertilité, tout simplement de la fécondité des plantes. Donc, et les problèmes sont permanents, je veux dire, on peut les multiplier quasiment à l'infini.
Mais pourquoi est-ce que les humains ne sont jamais souciés des choses qu'à partir du moment, que pour l'usage qu'ils en font ? Ça, c'est quand même un travers que...
La beauté de la situation, si j'ose dire les choses comme ça, c'est qu'aujourd'hui, pour s'occuper de son propre intérêt, il faut se projeter dans un espace dans lequel, éventuellement, nous-mêmes, nous n'existerons plus du tout comme espèce. Je m'explique. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en train de terraformer la Terre, de changer les équilibres de l'atmosphère. L'action que nous avons aura des effets, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les déchets radioactifs, dans des centaines de milliers d'années ou dans des millions d'années. Donc on est dans une échelle de temps géologique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes dans une échelle de temps géologique dans laquelle l'espèce humaine n'existera même plus. Mais si nous ne prenons pas en compte cette échelle de temps, nous ne nous rendons même pas compte de la réalité de ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est-à-dire changer la planète. Et donc, nous ne pouvons pas non plus nous occuper de nous-mêmes. Donc la beauté de cette situation, c'est que il faut s'occuper, si j'ose dire, des autres et des non-humains pour pouvoir s'occuper des humains.
Mais est-ce que là, j'en reviens encore au virus, au Covid, est-ce que là, on a touché du doigt les conséquences d'un tel virus ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se représenter les conséquences de nos actes autrement que quand on a vraiment les choses là sous le nez ?
Parce que une partie de ces entités sont des entités qui sont produites par les discours scientifiques. Donc on ne voit pas les virus. On voit des gens tousser, mais on ne voit pas les virus. Et ça, il faut bien dire que la culture des sciences qui est la nôtre ne nous aide pas à appréhender les faits scientifiques, parce qu'on nous dit la science c'est un discours vrai qui décrit la réalité, comme quand je dis le chat est sur le paillasson. Eh bien non, il faut qu'il y ait des traductions.
Sur le
des
coussin, méditions. Vous voulez dire. Vous ne mettez pas votre chat sur le paillasson, vous le mettez sur un coussin, sur le canapé.
Donc c'est si on pense les énoncés scientifiques comme ça, ben on voit pas de virus. Donc évidemment, c'est très compliqué. Et si on croit que les sciences décrivent les choses telles qu'elles sont de manière indiscutable, eh bien on ne comprend pas comment, dès qu'on ouvre un petit peu la porte pour regarder comment travaillent les scientifiques, on l'a vu avec l'affaire du Diraou, ben en fait, il y a énormément de controverses. Certaines de ces controverses sont factices, mais la plupart, en réalité, c'est comme ça que ça marche, la science, par la controverse. Ouais. Donc les gens ne savent... En gros, ben, ils vont penser ce qu'ils préfèrent penser, parce que c'est le plus avantageux de le penser, dans l'immédiat. Donc c'est notre travail, comme le dit Bruno Latour, on a les élites qu'on mérite, c'est notre travail à nous de faire ce travail de traduction, d'explicitation, et pas de croire qu'il suffit de dire les choses pour que ça se passe. Il y a une transformation aussi des équilibres politiques qui est nécessaire pour que les choses puissent être comprises, même les résultats scientifiques.
Nous sommes irrémédiablement terrestres, ça vous le montrez parfaitement dans votre livre, et les conséquences sont multiples. Elles sont philosophiques, elles sont scientifiques, politiques, sociales, religieuses, tout ça vous le montrez, Patrice Maniglier, dans votre livre. Les questions donc sont ontologiques, eschatologiques. Comment, au milieu de tout ça, parce que il suffit de lire, mais encore faut-il le faire, comment est-ce qu'on savoir ce qu'on doit faire?
Ben, déjà, il faut essayer de comprendre quel est le problème. Je crois que les philosophes peuvent faire, c'est pas forcément donner des solutions, mais c'est donner la conscience du problème. Ce qui fait que c'est parfois un peu frustrant, la philosophie, parce qu'on a l'impression que ça rend les choses plus compliquées, ce qui est vrai, mais parce que la réalité est compliquée. Et donc le problème du réchauffement climatique, et plus généralement de ce qu'on appelle en fait les limites planétaires, est un problème difficile. Et pour comprendre la gravité d'un problème, la meilleure chose à faire, c'est de comprendre tout ce qu'il faudrait qu'on change dans notre manière de penser élémentaire, sur la nature du savoir, sur la nature de la réalité, sur la projection de, sur l'idée d'humanité, etc., pour qu'on puisse accueillir ce problème. Donc je crois que nous, les philosophes, nous avons à faire ce travail, et que ces questions ne sont pas simplement des questions technologiques, des questions économiques, des questions politiques, ça, c'est aussi des questions philosophiques.
Annette Singh, elle est anthropologue, d'ailleurs il faut rappeler que Bruno Latour, lui, il a d'abord été un anthropologue, elle est américaine, donc elle a publié un livre marquant il y a quelques années qui prenait pour exemple un champignon, lequel vit dans les forêts d'Oregon et dont les Japonais raffolent, et ce champignon, il a pour particularité de vivre dans les ruines du capitalisme, c'est-à-dire qu'il pousse dans les forêts où il n'y a pratiquement pas d'humus, et c'est un exemple idéal pour, je cite Annette Singh, explorer l'indétermination et les conditions de la précarité, c'est-à-dire ce qu'est la vie sans promesse de stabilité. Annette Singh s'est beaucoup appuyée sur la pensée de Bruno Latour.
Some people call the time of great environmental dangers the Anthropocene.
Vous savez, on appelle l'Anthropocène cette ère dans laquelle nous sommes entrés, cette ère de tous les dangers. Plus on va essayer de trouver des solutions technologiques aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, plus on va accentuer les dégâts sur l'environnement et les rendre irréversibles.
That the engineers rarely think ahead.
Les ingénieurs ne pensent pas assez loin. Ils n'envisagent pas suffisamment les conséquences des solutions technologiques qu'ils proposent.
So that some of the grand technical solutions that the green capitalists suggest.
Si bien que certaines solutions supposément mirifiques comme celle du capitalisme vert, d'après ce que je peux constater, ça ne fait que causer davantage de problèmes.
Colleague of mine once said, if we
un de mes collègues disait, si on ne peut pas arrêter le capitalisme, c'est le capitalisme qui va nous arrêter.
Patrice Maniglier, un commentaire?
Oui, il y a une phrase célèbre d'un critique littéraire marxiste américain qui s'appelle Frederick Jameson, où il dit « Il est plus facile d'imaginer aujourd'hui la fin du monde que la fin du capitalisme. » Et je pense effectivement que c'est assez juste. Alors, la pandémie et le réchauffement climatique ont la même cause. Et la cause, c'est le capitalisme extractiviste. Pourquoi ? Parce que il est probable qu'en tout cas, peut-être pas cette pandémie-là, mais les pandémies qui vont venir, qui sont en réserve dans l'avenir, est due par exemple à la déforestation. Parce que plus vous déforestez, plus vous chassez les chauves-souris, qui sont les principaux réservoirs de virus, et ça déclenche des pandémies. Bon, donc en fait, ça, c'est ça se fait en Indonésie, en Chine, dans beaucoup d'endroits, et nous vivons grâce à ça. Nos vies quotidiennes, y compris le son que nous produisons, est dépendant de ce genre de choses. Donc, si on n'attaque pas l'organisation économique et sociale dans laquelle nous vivons, eh bien effectivement, on sera obligé de faire face à ce mur qui est la réaction terrestre. Parce que les équilibres de la Terre, encore une fois, ne sont pas, n'ont pas à rester stables éternellement. Mais enfin, s'ils changent très vite, ça va détruire énormément d'espèces et nous ne pourrons probablement pas continuer à soutenir ce type de vie que nous avons.
Vous dites au sujet des sciences qu'il faut probablement les penser autrement et c'est pas comme ça, en fait, d'abord la science n'est pas la solution à tout et que c'est pas comme ça qu'on les apprend à l'école. Donc il faudrait aborder créer en quelque sorte une autre culture des sciences.
Oui, il faudrait arrêter de penser que la science dit la vérité sur la réalité telle qu'elle est, comme s'il y avait une réalité là-bas derrière, comme le chat sur le coussin. Il faut comprendre que la science, c'est une manière de traiter des problèmes dans lesquels nous toutes et tous, nous nous trouvons. Et il y a différentes manières d'appréhender ce problème. Par exemple, le problème du réchauffement climatique ou le problème de la pandémie.
La pandémie, c'est
frappant.
C'est frappant. On a beaucoup entendu des scientifiques. On a même reproché à notre président de la République de s'être trop appuyé là-dessus. On s'est étonné aussi du fait qu'il n'y ait pas d'unanimité scientifique. Donc, d'où la perte de confiance, voire quelquefois même la défiance.
Et puis, il y a des manières de se rapporter à la maladie, comme on l'avait vu à l'époque du sida, en fait, où les associations de malades, justement, faut essayer de faire valoir le fait que l'expérience même d'une maladie est une certaine forme de savoir sur la maladie. Et qu'il n'y a pas lieu de réduire toutes les expériences que nous avons des choses à la vision que les sciences en donnent. Ce qui ne veut pas dire négliger ce que nous donnent les sciences. Ça veut dire penser que les sciences enrichissent notre expérience au lieu de l'appauvrir, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire et qui peut aussi avoir des conséquences particulièrement graves quand il est question de quelque chose comme la Terre. Pourquoi ? Parce que la Terre, eh bien, c'est ce dans quoi nous sommes tous. Et il y a, malgré tout, des populations qui ont des manières de se rapporter à ce qu'ils observent du réchauffement climatique dans la forêt amazonienne ou autre, qui ne sont pas nécessairement celles des savants du GIEC. Donc il y a tout un travail de traduction dans les deux sens à faire pour voir que ces gens, il ne faut pas simplement, disons, disqualifier leur expérience et leur savoir.
Il n'y a pas le bon savoir d'un côté et le mauvais savoir de l'autre.
Voilà, il y a des savoirs qui doivent s'écouter précisément et surtout, il faut comprendre du coup la spécificité de la manière dont les pratiques scientifiques sont insérées dans le même monde que nous, dans lequel elles cherchent simplement à avoir des prises sur ce monde, comme nous cherchons. Il y a plein de manières d'avoir des prises sur le monde. Et encore une fois, j'insiste pour dire que ça ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, négliger la connaissance scientifique. Au contraire, ça veut dire justement décrire de manière plus réaliste, en fait, comme le dit d'ailleurs Bruno Latour, une approche plus réaliste des sciences, d'écrire ce que font réellement les sciences, qui n'est pas juste dire la vérité sur la réalité en soi.
Mais vous écrivez, Patrice Méniglier, que ce qui a manqué le plus, au fond, dans la gestion de cette pandémie, c'est un lieu de discussion qui aurait été de discussion scientifique, mais aussi économique, mais aussi culturelle, mais aussi politique, mais aussi religieuse.
Exactement. Il y a une diversité, on pourrait presque dire, de vérité, en tout cas de valeurs sur les expériences et on n'a pas vraiment de lieu dans lequel la diversité de ces expériences peut se rencontrer tout simplement et discuter. Et on a vu en fait en gros que on était sur un modèle qui était celui de du conseiller du prince. Donc l'expert scientifique dit la vérité et le souverain décide. Bon, mais ça empêche, de prendre en compte cette diversité des manières de vivre le problème. Et ça produit plutôt des effets de résistance, puisque la plupart des gens n'ont pas accès à ce qui fait que des scientifiques peuvent certifier que ce qu'ils disent est exact. Donc ils sont obligés de croire. Or, croire, c'est l'inverse de savoir. Donc on est dans une situation complètement paradoxale dans laquelle ce sont les savants qui disent qu'on nous croit. Et ils ont raison. Mais par exemple, regardez comment le GIEC a travaillé. Le GIEC, il a mis dans les trois groupes de travail qui sont le sien, une direction double. Une personne qui vient d'un pays dit développé, une personne qui vient d'un pays non développé. C'est pas un critère scientifique, venir d'un pays développé, c'est un critère d'identité politique, culturelle, etc. Pourquoi il l'a fait ? Il l'a fait pour que, justement, les résultats qui soient produits ne donnent pas le sentiment aux gens des pays du Sud que c'était les pays du Nord qui leur disaient simplement ce qu'ils devaient faire. Et ce faisant, il a obtenu des résultats, non seulement d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue scientifique, meilleurs. Donc, si on intègre la diversité des expériences, on améliore la production scientifique, on ne la diminue pas. Et c'est vrai aussi sur les questions, par exemple, féministes. Enfin, il y a beaucoup de questions qui pourraient être intégrées de ce point de vue.
Mais là, le virus, j'en reviens au virus parce que c'est vrai que ça parle à tout le monde. Vous montrez bien que le virus fait de la politique, qu'il fait partie intégrante de la politique et que le confinement, en quelque sorte, a refondé le politique. C'est-à-dire que, par exemple, on a pu sauver l'économie. Tout l'argent qu'on a mis là, on pourrait se dire qu'on aurait pu le mettre avant.
C'est ça qui est assez formidable dans cette expérience, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que nos sociétés étaient capables de réagir à des problèmes qu'elles estimaient extrêmement graves. Donc le problème, c'est qu'elles n'estiment pas si grave que ça une question comme le réchauffement climatique ou l'effondrement de la biodiversité ou l'acidification des océans. Et elles ont tort. Et donc là, effectivement, il faut créer, je dirais, des mécanismes de sensibilité, des capteurs, une sorte de surface sensible, une peau sociale qui permet de réagir à ces choses et de les voir. Parce que le problème aussi, c'est que le capitalisme extractiviste a cette extraordinaire capacité à rejeter très très loin, en fait, les conséquences de ce qu'il fait. C'est-à-dire, effectivement, les forêts amazoniennes ou indonésiennes, on les voit pas, même si on vit sur elles. Les atolls du Pacifique qui sont en train de se noyer par la montée des eaux, on ne les voit pas. Donc, il faut que on ait un retour. C'est pour ça que la relocalisation, c'est important aussi, de ce point de vue-là, parce que on peut mieux voir auprès, au plus proche, les conséquences et aussi les conditions de ce qu'on fait.
Mais le virus, en ce sens, et c'est pour ça probablement que vous avez intitulé le philosophe La Terre et le virus, pour Bruno Latour, c'est en fait un instructeur. C'est-à-dire qu'il nous a donné des leçons philosophiques, des leçons métaphysiques.
Absolument, parce que il est vrai que cette idée qui paraît très bizarre de dire selon laquelle des non-humains peuvent être des agents, en fait, quand on regarde comment fonctionnent les virus, eh bien, effectivement, les virus réagissent à notre action. Et toute l'histoire des variants, des différents variants, c'est quoi?
Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une pandémie, hein. Il y a une multiplicité.
Il y a une multiplicité. Ça n'existe pas un virus. Un virus, c'est quelque chose qui mute extrêmement vite et pas simplement avec les variants. Ça mute tout le temps. Et ces mutations lui permettent justement de s'adapter. Et nous, nous nous adaptons à lui. Donc, en fait, c'est un partenaire. C'est exactement comme ce que je disais de la Terre. Avec la Terre, nous dansons. Nous ne sommes pas sur la Terre qui réagit pas et nous qui nous agissons dedans. Nous agissons avec la Terre et nous faisons une histoire commune.
Et on a beaucoup râlé d'être confinés chez soi, mais nous sommes confinés sur Terre.
Et nous sommes absolument
L'horizon
confinés.
L'horizon est
fini. Nous sommes confinés sur Terre. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a quand même pas pris conscience et qui permet de comprendre ce que c'est que la Terre. La Terre, c'est une sorte d'horizon, en fait. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut pas, on peut pas aller au-delà. Les militants disent « il n'y a pas de planète B ». J'aime beaucoup cette expression, effectivement. Et moi, j'insiste dans mon livre pour dire « c'est vrai, il n'y en a qu'une ». De Terre, mais en même temps, elle est quand même multiple. Et il ne faut pas croire, par exemple, que les sciences du climat ou les sciences de la Terre disent tout de cette Terre unique. Il y a de l'unicité, c'est pas la même chose que l'identité. Elle est une, mais pas la même pour tout le monde. Et donc, en fait, elle est plutôt ce qui nous force à essayer de nous traduire les uns les autres et de discuter ensemble.
Lui aussi, donc, comme Anat Singh que nous écoutions tout à l'heure, est anthropologue. C'est même une des grandes figures américanistes de l'anthropologie. Il a beaucoup étudié sur le terrain, en l'occurrence en Amazonie équatorienne. C'est Philippe Descola.
Pessoa l'a dit fort bien. Oui, la nature comme une totalité n'existe pas. La nature, c'est quelque chose que les Européens ont inventé à un certain moment. Et cette expression que j'évoquais, une maladie de nos idées, c'est peut-être ça ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que cette totalité dont les humains se sont séparés lorsqu'ils ont conçu la nature comme une totalité, ce mouvement a engagé, induit une façon d'être au monde tout à fait singulière qui a commencé à se développer à partir du 15e siècle dans les images. Et un peu plus tard dans les textes, à partir du XVIIe siècle dans les textes, et qui constitue au fond l'essence même de la modernité. C'est pour ça que nous sommes modernes, c'est parce que nous pensons que la nature existe.
La nature, une invention humaine, c'est quand même... Enfin, en un premier temps, on se dit, attends, j'ai bien entendu là ou pas? Oui, c'est une invention humaine.
Ben oui, c'est une invention humaine et cette opposition entre nature et culture n'aide pas du tout à vivre dans le monde dans lequel de fait nous vivons. Par exemple, si on pense que le virus est dans la nature et que nous, en fait, on est dans la culture, eh bien, on perd justement la compréhension du fait qu'en réalité, on est en train d'interagir sur le même plan et que les virus sont des forces de, disons, peut-être pas de même nature, mais sur le même plan, que des imaginaires, des rêves, des projets biographiques et des choses comme ça. Tout ça participe à une même réalité. Alors moi, j'utilise un mot du philosophe Gilles Deleuze qui est le plan d'immanence. Tout ça est à plat. Tout ça, la division entre nature et culture vient diviser quelque chose qui en réalité est toujours embrouillé. Et les vraies divisions intéressantes, c'est pas entre nature et culture, c'est plutôt entre différentes nature-culture. Par exemple, la nature-culture moderne, justement, qui a produit ce processus qu'est le réchauffement climatique, elle est différente de la nature-culture des gens qu'a étudié Philippe Descola, qui sont les hachoirs, Christian Givaro. Il y a autant d'éléments naturels que d'éléments culturels dans ces entités. Et les vraies différences pertinentes, elles sont là. Elles sont pas dans le fait qu'il y a des entités naturelles et des entités culturelles. Parce que, encore une fois, penser ça, c'est penser aussi qu'il y a des vrais sujets d'un côté, c'est nous, et puis il y a des choses de l'autre côté inertes. Et alors, on comprend pas comment ça se fait, qu'elles réagissent, encore une fois, à nos réactions, et que nous devons nous adapter à leur adaptation.
Donc, il est urgent de refonder nos systèmes intellectuels, il est urgent de ne plus vivre hors sol, il est urgent d'atterrir. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est ça? C'est ce que vous
Alors, l'eschatologie, le mot eschatologie, est un mot qui vient de la religion et qui signifie une des visions de la fin de l'humanité, comme par exemple la promesse du jugement dernier. Or, il est frappant aujourd'hui, on sent bien dans les discours apocalyptiques qui apparaissent, qu'il y a à nouveau une thématique de la fin du monde. Donc, il faudrait, je me suis dit, en tant que philosophe, j'ai le devoir d'essayer d'expliquer ça, parce que ça peut être la source de toutes sortes de délires, enfin. Et pourtant, il est vrai qu'il y a un problème de finitude. C'est ça, l'eschatologie, c'est une théorie du caractère fini de la Terre. Donc, les scientifiques qui parlent des limites planétaires, que nous ne devons pas dépasser, parce que sinon, il y a ce qu'ils appellent des points de bascule, des tipping points en anglais, ils déterminent justement ce caractère fini. Nous sommes à l'intérieur de quelque chose, et si on ne s'en rend pas compte, ça ne veut pas dire que le monde, l'univers va s'arrêter, certes, c'est pas que Dieu va descendre sur Terre pour nous juger, mais ça veut dire qu'il va y avoir une rupture drastique de la continuité de nos genres de vie, et peut-être même de la vie tout court, en fait.
Patrice Maniglier est notre invité ce soir sur France Inter pour son livre « Le philosophe, la Terre et le virus », Bruno Latour expliqué par l'actualité. « Sommes-nous ?» se demande Alain Bachaume.
De sa bonté, un Judas m'a endormi et j'ai pris les verres en grippe. Seul mon essai de jouer par milliers, seul mon essai tes avances, sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la vaillance ou le dernier coquelicot? J'ai décimé, décimé les armées de répondeurs, occupés à se dire au saut du lit. Seul mon essai, nos héros préférés, seul mon essai, nos absences, sommes-nous des gonzesses, sommes-nous de connivence ou le dernier coquelicot? Moi, dis-moi ton nom, dis-moi en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les autres? Sommes-nous le souvenir? J'ai commandé, décommandé de mes yeux la prunelle, balancer les jumelles pour ne garder que le flou. Seulement laisser les passions immortelles, seulement laisser nos offenses,
sommes-nous la sécheresse, sommes-nous la romance, sommes-nous la sécheresse, sommes-nous la noblesse, sommes-nous les autres, sommes-nous nos souvenirs,
sommes-nous. C'était Alain Bachung, vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez.
L'hypothèse Gaïa, c'est que tout simplement ce que nous appelons le grand, c'est-à-dire l'atmosphère, est la conséquence de l'action des petits, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les plantes. Et cette conjonction-là, qui d'ailleurs n'aurait pas étonné Pasteur, il y a pas mal de textes de Pasteur sur l'usage indispensable des microbes pour recycler l'ensemble des vivants, mais ce qui est nouveau, c'est le changement d'échelle et surtout le fait que l'action des humains a été tellement puissante qu'elle a modifié la vitesse de réaction du système Terre qui est en face d'elle. Donc c'est ça qui est complètement nouveau. Pasteur n'aurait pas... je pense pas que personne au 19e siècle n'aurait vraiment imaginé cette situation de réaction, non pas simplement d'un virus, d'une bactérie, d'un microbe, mais celle du système Terre lui-même. La grande transformation, c'est que là, c'est l'environnement qui est produit par les vivants, et c'est cet environnement lui-même qui est en train d'être modifié par nos actions. C'est ça qui est nouveau.
Bruno Latour, donc, sur l'hypothèse Gaïa. Gaïa, dans la mythologie grecque, donc, c'est une divinité. Pourquoi est-ce que cette hypothèse Gaïa, Patrice Maiglier, est controversée?
Elle est controversée parce qu'elle a été interprétée comme si James Lovelock, qui est l'inventeur de cette hypothèse avec Lynn Margulis, qui est une bactériologiste états-unienne, disait en fait que la Terre était un grand organisme. Alors les métaphores organiques, en général, c'est pas très apprécié, à juste titre. Bon, or il disait pas ça, il disait en fait que les vivants sont des acteurs de l'histoire de la planète, comme le dit Bruno Latour dans ce texte. Bon, et en gros, en fait, les sciences du système Terre sont tributaires de cette hypothèse Gaïa.
Mais donc il faut après, que la Terre, il y a des nuances. Mais... Il faut que la Terre se maintienne en harmonie avec la vie.
Alors justement, c'est pas vraiment... Justement, le vivant produit plutôt un déséquilibre. Parce que les équilibres naturels, si vous voulez, de la planète... ne serait pas la composition chimique de l'atmosphère ne serait pas celle qu'elle est s'il n'y avait pas des vivants, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, c'est les vivants qui maintiennent l'atmosphère dans ce type de composition chimique avec cette proportion très importante d'oxygène qui n'existe pas sur Vénus, par exemple.
Et dans 1500 ans, j'en casse mon micro, dans une quantité absolument incroyable d'enchevêtrement parce que il y a de l'humain dans les roches et du minéral au cœur de nos protections sociales.
Oui, ça, c'est dans votre le minéral au cœur de nos protections sociales, c'est qu'on dépend beaucoup du carbone, enfin du pétrole, par exemple, ou du gaz naturel, puisque l'actualité aussi est celle-là. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de se passer en fait des hydrocarbures russes de manière immédiate au prix d'une sobriété effectivement coûteuse, mais peut-être équitablement distribuée? C'est là où on voit d'ailleurs, j'insiste, le fait que toutes les questions écologiques sont immédiatement des questions sociales. Parce que si on disait à tout le monde, bon ben maintenant il va falloir se passer des hydrocarbures russes, il va falloir donc réduire notre activité... Comme pour la pandémie, c'est-à-dire que là, c'est une activité collective.
Et quand on parlait de globalisation.
En tout cas, au moins au niveau, par exemple, d'une nation tout entière, ce serait l'État national, voire l'Europe tout entière, qui déciderait en fait que on paye le prix, on sacrifie une partie de la consommation énergétique qui est la nôtre. Et là, la question est de savoir comment on répartit les efforts. Donc, la question de l'équité et de l'égalité sociale est intrinsèque à cette question de ce qu'on appelle la transition climatique, ou la transition écologique en général. Et d'ailleurs, ce mot de transition, il est pas super, parce qu'il suppose qu'on va d'un point A à un point B, alors que en réalité, le problème, c'est plutôt justement de revenir sur Terre.
Mais alors, nous vivons quoi? Une transition, Patrice Maniglier, une transition, une crise, une mutation? Comment est-ce
alors, certainement pas une crise, parce qu'une crise supposerait qu'on peut
sortir de la crise.
Donc, effectivement, il s'agit plutôt d'une mutation. Et la, je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Latour, ce qui vraiment va nous faire penser, c'est que si on se dit, ben, en fait, le problème, c'est la re-terrestrialisation de nos activités. C'est-à-dire que le système socio-économique et technique dans lequel nous vivons n'a pas intégré la contrainte planétaire. Donc il faut qu'il intègre cette contrainte planétaire, ce qui suppose des transformations de tous ordres, énergétiques, religieux, littéraires, vraiment de tout type. Bon, et c'est un défi civilisationnel qu'il n'est pas sûr. J'y insiste parce que je vois bien qu'aujourd'hui on a tendance à dire qu'il y a une grave, la situation est grave. Je pense que maintenant le message est passé. Mais maintenant qu'on a compris que la situation est grave, il faut en tirer les conséquences. Donc il faut bien comprendre que il n'est pas sûr que ce défi civilisationnel, nous soyons capables de le relever. Ça n'est pas sûr du tout. Et si on ne se met pas à agir, y compris en votant pour des gens qui sont capables de prendre des mesures qui sont à la hauteur de ce genre de choses, si on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on n'est pas capable, dans une situation comme celle de la guerre en Ukraine, d'interrompre immédiatement les hydrocarbures russes. Bien sûr, c'est très coûteux. Bien sûr, c'est très coûteux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire, alors qu'on a été capable de le faire dans une certaine mesure, en fait, pour la pandémie? Si on ne se pose pas ces questions-là, alors c'est pas sérieux. Alors on est dans un discours complètement incantatoire et on peut continuer, effectivement, à chanter, à pleurer, en fait, sur la Terre. Ça servira à rien. Donc il est important de pleurer sur la Terre pour agir, justement. Et ça suppose beaucoup d'efforts, effectivement, mais c'est des efforts joyeux, parce que c'est des efforts d'abord qui vont nous mettre dans un rapport plus exact, plus juste, plus vrai avec notre réalité qui est terrestre. Mmh. Et ensuite, parce que justement, ça va rouvrir des possibilités d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'imaginaire de l'avenir qui était le nôtre, celui du progrès technique étendu à toute l'humanité, soi-disant, en fait, par la colonisation, on a vu que c'était pas si simple que ça. Mmh. Mais cet imaginaire de l'avenir n'est plus viable. Les gens n'y croient plus, tout simplement. Donc ils ne croient plus à l'avenir. Donc ça, c'est très dangereux. Ça risque de susciter des réactions plutôt de type nihiliste. Donc on a vraiment intérêt à réagir extrêmement vite à ce défi civilisationnel.
Donc revenons sur Terre et repolitisons la vie.
Absolument. Donc ça suppose effectivement que c'est le problème des questions écologiques, c'est qu'elles ont souvent été posées comme si c'était quelque chose qui nous pacifiait. Justement, il y avait la nature qui serait en quelque sorte à l'écart des misérables conflits des êtres humains. Bah pas du tout. La nature, justement, elle est dans tous les conflits et typiquement dans des conflits de type conflits armés.
Donc il va falloir apprendre à se battre.
Et donc
ça fait partie de l'atterrissage.
Absolument. Il faut redéfinir nos conflits comme ayant pour enjeu la re-terrestrialisation, la réintégration de notre condition terrestre dans nos vies. Et c'est pour ça que Bruno Latour a cette suggestion, évidemment, un petit peu, parce que Bruno Latour est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires. Alors, il raconte l'histoire du présent en disant, il y a d'un côté les extracteurs, ceux qui vont continuer à extraire, et d'un autre côté, il dit, il y a les ravaudeurs, les gens qui veulent réparer, justement, nous remettre sur Terre, nous faire réintégrer notre condition terrestre. Bon, effectivement, c'est une manière de penser les conflits. Donc, c'est chercher à savoir, justement, qui sont les ravaudeurs, qui sont les extracteurs.
C'est de la géopolitique, un peu, non?
C'est absolument de la géopolitique, dans le sens littéral du terme, au sens où, encore une fois, la guerre en Russie, mais d'une certaine manière, les conflits qu'il y a en Afrique, les conflits qu'il y a en Asie sont liés à des conflits, par exemple, d'extraction de minéraux et des choses comme ça. Mais c'est aussi géopolitique au sens où géo, ça veut dire la Terre. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de question politique qui ne soit pas terrestre. Parce que tout ce que nous faisons, de la douche du matin ou du soir, au petit encas, en passant par la voiture, tout implique la contrainte planétaire.
Mais ça veut dire qu'on a un globe comme ça, et dans ce globe, sur ce globe, je sais pas comment il faut dire, il y a des zones, c'est ça?
Non, c'est que il y a plutôt encore une fois des cycles biogéochimiques, comme par exemple le cycle de du carbone par exemple. Et donc il passe par des vivants, par des non-vivants, les vivants deviennent des sédiments qui deviennent du pétrole qui hop ressortent là. Et là effectivement on est en train de brûler à une vitesse extrêmement grande des ressources qui ont été accumulées. Enfin, je dis ressources, et justement c'est pas le bon mot, mais enfin des choses qui ont été accumulées pendant des millions d'années. Donc c'est plutôt des cycles, et nous on est pris dans ces, moi j'appelle ça les boucles de Gaïa. On est pris dans ces boucles, dans ces volutes, et la manière dont on est entré dans ces volutes en extrayant ces ressources pour les dépenser à grande vitesse et pour les dépenser pour de bonnes raisons, en partie pour de bonnes raisons. Je veux dire qu'aujourd'hui, évidemment, le travail humain a une efficacité beaucoup plus grande grâce aux ressources énergétiques qui sont les nôtres qu'il y a 200 ans. Donc on peut faire beaucoup plus de choses. Et donc maintenant, le tout est de bien le faire. Et c'est vrai qu'on gaspille tout le temps, ne serait-ce que en regardant des vidéos en permanence sur des réseaux, on n'arrête pas de gaspiller, on se rend pas compte à quel point on gaspille, et c'est, on est obligé aujourd'hui de se rendre compte qu'il va falloir effectivement arrêter de gaspiller.
Et c'est... peut-être apprendre à partager aussi, parce que la Terre, elle peut, ça peut se partager, ça aussi c'est une question de notre temps.
Ben, c'est-à-dire, on est obligé de la partager, parce que aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, vous savez que vous êtes en train de contribuer à noyer un atoll dans le Pacifique ou le delta du Bangladesh. Parce qu'en fait, vous contribuez au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est la montée des eaux. Donc en fait, vous occupez, c'est un problème géopolitique, vous occupez des territoires.
Quand on a besoin de sa voiture tous les jours, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, et on a vu d'ailleurs ce que ça a donné sur le prix des carburants avec les gilets jaunes, on se dit, bon d'accord, c'est gentil de me dire ça, mais moi, comment je fais pour circuler? On a qu'à me donner une voiture qui ne pollue pas.
Absolument. Il y a énormément de problèmes, par exemple, effectivement d'urbanisation. Mmh. On a encouragé un type d'urbanisme dans lequel il y a une distance entre le logement et le lieu de travail, entre le logement et le lieu d'approvisionnement, etc. Toutes ces choses-là doivent changer. C'est un énorme défi civilisationnel qui doit être, disons, pris en charge très rapidement. Sachant que, de toute manière, moi je fais partie des gens qui pensent qu'évidemment les 1,5 degrés, on n'y arrivera jamais, mais que tout compte, tout micro-degré dans cette affaire compte. Et que donc il y a trois questions, et ça c'est très important. Il y a la question de l'atténuation du réchauffement, et il y a la question de l'adaptation, qui est tout aussi urgente aujourd'hui. Et il y a la question enfin, disons, de la justice ou des réparations. Et par exemple, la question des migrations ne peut pas être séparée de la question du réchauffement climatique. Donc quand vous dites la Terre, on la partage, donc il faut prendre au sérieux le fait qu'effectivement, puisque nous avons des effets à longue distance par la simple action que nous avons ici et maintenant, eh bien, il faut effectivement être capable d'envisager une justice globale. Et ça, bah nous ne sommes toujours pas prêts à le faire, et c'est effectivement une question géopolitique.
Merci beaucoup Patrice Maniglier. En tout cas, vous pouvez tous avoir dès demain, si vous allez dans votre librairie, un outil précieux dans les mains pour vous faire réfléchir, Le philosophe, la Terre et le virus, Bruno Latour expliqué par l'actualité, et c'est aux éditions des Liens qui libèrent. Merci à vous.
Merci beaucoup Patrice Martin.